Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorcil et Tatiana Mosso, bonsoir, bienvenue à l'édition de ce jeudi 6 août 2015, au sommaire ce soir.
En République démocratique du Congo, 161 opposants et membres de la société civile annoncent une série de manifestations contre ce qu'ils appellent les manœuvres du président Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir.
Le Nigeria menacé d'inondations massives par l'ouverture prévue d'un barrage au Cameroun voisin. L'alerte a été donnée par l'agence nigériane de gestion des urgences pour évacuer la zone.
Au Burundi, la société civile tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale à agir vite pour empêcher une guerre civile.
Nous avons besoin d'une force qui nous protège. On n'a pas besoin d'une force qui observe notre mort.
Le leader de la société civile burundaise pacifique, Ninina Zoué, Égypte, inauguration de l'expansion du canal de Suez. On écoutera l'analyse du professeur Habib Ayeb.
Un triste anniversaire, il y a 70 ans, le premier bombardement nucléaire de l'histoire détruisit la ville japonaise d'Hiroshima, faisant au moins 140 000 morts.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, 4 personnes ont été tuées dans 2 incidents séparés la nuit dernière à Bujumbura. Le porte-parole adjoint de la police a affirmé que le rapport de police indiquait que 2 des victimes avaient péri au cours d'affrontements. La situation sécuritaire continue de se dégrader, marquée notamment par une série d'assassinats ciblés depuis que le président Nkurunziza a été réélu pour ce 3e mandat controversé lors d'une présidentielle quasiment unanimement condamnée.
En République démocratique du Congo, 161 opposants et membres de la société civile annonce une série de manifestations contre ce qu'ils appellent les manœuvres du président Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir. Un meeting est prévu le 15 septembre. Le député Jean-Bertrand Ewanga, qui vient de purger 1 an de prison, accusé d'offense au chef de l'État, aux membres du gouvernement et au Parlement, en sera le principal orateur. Pour en discuter, Eddie Sango a joint le coordonnateur de la plateforme Sauvons la RDC, le député Martin Fayulu.
La déclaration de l'opposition est très claire. Elle donne un plan d'action, un plan d'activité qui commence le lundi prochain jusqu'au départ de M. Kabila. Donc, nous commençons lundi prochain par une conférence de presse de notre cher camarade Jean-Bertrand Ewanga qui vient de purger 1 an de prison, emprisonné injustement par M. Kabila. Et après, nous avons la campagne qui s'intitule L'enrôlement s'impose avant toute élection en RDC. Et nous aurons un grand meeting, un meeting populaire le 15 septembre. C'est une date symbolique, c'est le jour de la rentrée parlementaire. Et ce jour-là, nous allons nous réunir et dire tout simplement que le 20 décembre 2016, le Congo aura un président élu qui va prêter serment. Donc, que M. Kabila se prépare. Nous ne nous faisons pas, des révolutions pour dire, voilà, il part avant les 19 décembre 2016.
Le député Martin Fayulu joint à Kinshasa.
Inauguration en grande pompe du doublement du canal de Suez. Devant plusieurs chefs d'État, le président Al-Sisi a pris la tête d'une fastueuse parade navale qui s'est engagée dans l'artère fondamentale reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Le président François Hollande est l'invité d'honneur de cette cérémonie, mais les autorités le répètent sans cesse. Cette fois-ci, ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui ont financé les travaux en achetant des participations. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Le Nigeria, menacé d'inondations massives par l'ouverture prévue d'un barrage au Cameroun voisin. L'alerte a été donnée par l'agence nigériane de gestion des urgences, la NEMA, qui avertit des dizaines de milliers de personnes vivant le long de la rivière Benue de se parer à toute éventualité. On fait le point avec Jacques Aristide.
C'est le barrage de l'Agdeu dans le nord du Cameroun qui est la source des craintes nigérianes. Un barrage qui doit libérer de l'eau jusqu'en novembre pour réduire une accumulation trop importante d'après la NEMA qui dit en avoir été informée par les autorités camerounaises de Garoua. L'ouverture du barrage et de fortes pluies avaient déjà provoqué une catastrophe en 2012. Des inondations avaient alors fait au moins 30 morts et 120 000 déplacés au Nigeria et 14 morts au Cameroun. D'où l'avertissement de la NEMA qui avise les populations de demeurer prêtes à évacuer si de telles inondations se reproduisaient. L'agence a déjà demandé aux autorités locales et organismes de secours le long de la rivière Benue de préparer des abris pour déplacer déplacer les communautés touchées. Le barrage de Lac-2, situé à 50 km au sud de la ville de Garoua au Cameroun, fait 300 mètres de long. Il fournit le nord du pays en électricité depuis 1982.
Les avocats de l'ex-ministre sénégalais Karim Ouad ont boycotté jeudi une audience de la Cour suprême qui examinait leur recours contre sa condamnation en mars à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. La Cour suprême a estimé que la demande de récusation d'un de ses juges, soupçonné de partialité, n'a pas d'effet suspensif sur la procédure. Elle a aussi rejeté leur demande de renvoi de l'audience. La défense a alors quitté la salle.
Un journaliste et un enseignant sont poursuivis en Tunisie pour complicité de terrorisme en vertu de la loi antiterroriste de 2003, a indiqué aujourd'hui l'ONG Human Rights Watch, qui dénonce une restriction à la liberté d'expression. Noureddin Barki, le rédacteur en chef de Harer Khabar Online, est accusé d'avoir publié une photo présentée comme étant de Seyfeddine Rezgi, l'auteur de l'attentat contre un hôtel tunisien le 26 juin, descendant d'une voiture avant de commettre le massacre. 38 touristes ont été tués. Abdel Fateh Saïd, un enseignant, a, lui, publié une vidéo sur Facebook accusant les forces de l'ordre d'avoir planifié l'attentat et assurant que l'assaillant avait été dupé.
Soma Oil & Gas, une compagnie privée dirigée par Lord Michael Howard, a démenti lundi avoir payé plus $1 million à des responsables du gouvernement pour protéger un accord d'exploitation pétrolière signé en 2013. L'Office britannique de la lutte contre la délinquance financière a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle à la suite d'allégations de corruption en Somalie. Ces allégations qui découlent d'une enquête menée par le groupe de contrôle des Nations Unies, chargé du suivi de violations des embargos qui pèsent sur ces deux pays, l'Érythrée et la Somalie. Et ce rapport de 28 pages a été soumis lundi au Conseil de sécurité de l'ONU.
La Chine, accusée d'être le principal importateur illégal d'ivoire et de cornes de rhinocéros, a promis de fournir au Zimbabwe des équipements de lutte contre le braconnage d'une valeur de $2 million. Ces équipements comprendront des véhicules tout-terrain, des tentes, des instruments de visée optique, du matériel de radio et des systèmes GPS. Le don chinois intervient quelques jours après la polémique mondiale provoquée par la chasse du lion Cécile, emblème du célèbre parc naturel zimbabwéen de Wangé, abattu par un riche chasseur à l'arc américain amateur de trophées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
13 personnes ont été tuées ce jeudi en Arabie Saoudite. Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée fréquentée par les forces de sécurité dans la province d'Assir. Les derniers détails avec Nicolas Pimeno.
Selon le ministère saoudien de l'Intérieur, l'attentat a été perpétré dans une mosquée au quartier général des forces spéciales à Aba, chef-lieu de la province d'Assir, lors de la prière du midi. L'attentat terroriste a visé les fidèles en prière, a dit le porte-parole du ministère, qui a laissé entendre qu'il s'agissait d'un attentat suicide, puisque des lambeaux humains ont été retrouvés sur les lieux, ce qui pourrait être dû à la détonation d'une ceinture d'explosifs, selon lui. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières ayant visé ces dernières années les forces de sécurité saoudiennes, dont 2 membres ont été blessés à la mi-juillet dans un attentat à la voiture piégée à Riyad, revendiqué par le groupe État islamique. La province orientale de l'Arabie saoudite a connu en mai 2 attentats contre des mosquées chiites, également revendiquées par l'État islamique. L'Arabie saoudite, qui fait partie de la coalition dirigée par Washington pour combattre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, a multiplié ces derniers mois les arrestations d'extrémistes sunnites. Riyad les soupçonne de planifier des attaques pour attiser les tensions confessionnelles.
Par ailleurs, l'Arabie saoudite renforce son appui militaire aux forces loyalistes combattant les rebelles chiites houthis au Yémen. Riyad a envoyé du matériel et des troupes additionnelles ces derniers jours aux partisans du président Abdrabo Mansour Hadi qui viennent de reconquérir Aden dans le sud et d'autres villes occupées par la rébellion que soutient l'Iran.
Le Japon a célébré aujourd'hui le 70e anniversaire du bombardement d'Hiroshima à l'arme atomique par les États-Unis. Un bombardement qui a conduit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de personnes ont observé une minute de silence ce jeudi, alors que les cloches sonnaient au Memorial Peace Park, près de l'épicentre de l'explosion. Jean-Roger Bion.
Kazumi Matsui, le maire d'Hiroshima, a appelé à un effort renouvelé pour débarrasser le monde des armes nucléaires qu'il a qualifiées de mal à l'état pur. Pour le premier ministre Shinzo Abe, le Japon étant le seul pays à avoir jamais été attaqué avec une bombe atomique, il a une responsabilité unique pour créer un monde sans armes nucléaires. Et cette volonté se traduit par la proposition d'un nouveau projet de résolution aux Nations Unies à l'automne sur le désarmement nucléaire, a plaidé le chef du gouvernement japonais. Le bombardement d'Hiroshima a fait environ 140 000 morts. Une autre bombe a été larguée sur la ville portuaire de Nagasaki 3 jours plus tard, tuant environ 70 000 habitants. Washington a soutenu que les attaques étaient nécessaires pour parvenir à une fin rapide de la Deuxième Guerre mondiale. 6 jours après l'attaque de Nagasaki, le Japon a capitulé, mettant fin à la guerre. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré ce jeudi que l'anniversaire était un puissant rappel de l'impact de la guerre et des efforts mondiaux pour réduire le nombre d'armes nucléaires. L'anniversaire du bombardement d'Hiroshima intervient alors que le Japon est engagé dans un débat public sur l'utilisation de l'énergie nucléaire ainsi que les efforts visant à élargir le rôle de l'armée dans le pays.
La France et la Russie ont convenu d'annuler le contrat de vente de 2 navires de guerre Mistral. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en a fait l'annonce aujourd'hui, précisant que Paris rembourserait tout l'argent déjà versé par Moscou. Le montant n'a toutefois pas été indiqué.
Dossier de l'avion de Malaysia Airlines disparu il y a 17 mois. Le ministre malaisien des Transports a affirmé que d'autres pièces d'avion ont été découvertes sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, où une partie de l'aile du Boeing 777 a été retrouvée la semaine dernière. Ces nouveaux débris vont être analysés pour savoir s'ils sont aussi une des parties du vol MH370.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Merci. Excusez-moi. Place maintenant à la Minute Éco. J'ai avancé un petit peu le programme. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Bagassi Koura.
En Égypte, le nouveau canal de Suez a été inauguré en grande pompe par le président Abdel Fattah al-Sissi. Avec cette nouvelle voie longue de 72 km, l'Égypte prévoit de doubler le trafic à l'horizon 2023, passant de 49 navires par jour à 97. De plus, la nouvelle artère qui permet la circulation à double sens réduit de 18 à 11 heures le temps d'attente des bateaux. La nouvelle voie devrait faire passer les revenus du canal de 5,3 milliards de dollars, attendus en 2015 à 13,2 milliards de dollars en 2023. En RDC, ouverture hier à Kinshasa d'un colloque sur le secteur des mines. Pendant 3 jours, les participants vont se pencher sur les problèmes des mines au Congo. Maboli Yayenga est coordonnateur de Promine, le projet d'appui au secteur minier en RDC. Il est au micro de nos confrères de Radio Okapi.
Nous voulons montrer toutes les actions qui ont été faites et qui vont être faites dans le secteur minier pour justement remplir les attentes que le gouvernement a imposées au ministère des Mines. Je crois que les retombées du secteur minier, ce n'est pas encore au maximum de ce que nous attendons.
En Guinée, le projet de migration numérique vers la TNT va coûter 80 millions de dollars américains, selon Guinée News, citant des responsables guinéens. Le 17 juin dernier était le délai butoir fixé aux pays africains pour basculer de l'analogie à la télévision numérique terrestre.
Merci Bagassi Koura pour la Minute Éco.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est aussi les sports avec Nicolas Pinault. La CAF n'a toujours pas dit qui elle soutenait pour la présidence de la FIFA, Nicolas.
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a refusé à l'unanimité d'accorder son soutien au président de la Fédération du Liberia, Moussa Bility, pourtant candidat à la présidence de la FIFA. La CAF a précisé qu'afin de préserver les intérêts et l'unité du football africain, elle se donnera le temps nécessaire pour étudier toutes les options et se déterminer. Je vous rappelle qu'un comité exécutif de la CAF se réunira en octobre prochain au lendemain de la clôture des candidatures pour la présidence de la FIFA. L'élection aura lieu le 26 février prochain. C'est le président de l'UEFA, Michel Platini, qui est le grand favori pour succéder à Sepp Blatter, président depuis 1998, mais éclaboussé par une série de scandales.
Le mercato continue pour les clubs européens de football.
Le Paris Saint-Germain s'en remet à Angel Di Maria, qui a signé officiellement pour 4 saisons le transfert de l'Argentin de 27 ans pour une somme estimée à 63 millions d'euros. Quant à l'attaquant camerounais Jacques Zoua, en provenance de Kayseri Erciyesspor, un club turc, il a signé un contrat de 2 ans assorti d'une année supplémentaire avec une option d'achat avec le Gazélec d'Ajaccio. le club promu en Ligue 1 française.
Une marche pour la bonne cause, pour les coureurs kényans.
Deux célèbres athlètes kényans ont achevé ce jeudi une marche pour la paix. Longue de 836 km, elle visait à dénoncer les violences intercommunautaires. Les stars du marathon Wilson Kipsang et Tegla Lorupe, ainsi que des dizaines de marcheurs, ont passé la ligne d'arrivée dans la vallée du Rift au Kenya, où plus de 300 personnes ont été tuées au cours d'affrontements cette année.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Tatiana Mosso, en votre compagnie, dossier du jour, première escale, le Burundi, où la crise persiste, Tatiana.
En effet, la situation semble se détériorer et la société civile burundaise appelle à la communauté internationale à agir vite pour arrêter la violence et la vague d'arrestations arbitraires et de tortures dont sont victimes les présumés opposants. S'appuyant sur le rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, Pacifique Nini Nawazoué, le leader de la société civile, indique que le Burundi est en train de plonger dans la guerre civile.
L'avantage de ce rapport, de ce communiqué de Human Rights Watch, est de montrer que ce genre d'exactions ne se déroule pas seulement dans la capitale Bujumbura, mais que c'est un phénomène qu'on observe sur tout le territoire burundais. La deuxième considération pour nous est que ces situations sont extrêmement graves, que la communauté internationale ne devrait plus continuer à observer ce qui se passe au Burundi. Le monde doit agir vite pour sauver les Burundais, sinon nous sommes à la veille d'une autre guerre civile qui risque d'être extrêmement meurtrière.
Effectivement, Human Rights Watch interpelle l'Union africaine et d'autres organisations pour envoyer des observateurs au Burundi. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant?
Bon, mais cela n'empêche pas que le service de renseignement continue à arrêter, continue à tuer. Toute la question de savoir, oui, on peut avoir des observateurs, mais ils sont là pour faire quoi? Est-ce qu'ils sont là juste pour assister, juste pour observer comment on tue les Burundais? Nous avons besoin d'une force qui nous protège. On n'a pas besoin d'une force qui observe notre mort.
On rapporte aussi des morts du côté de la mouvance.
Oui, bien sûr. Dimanche dernier, il y a eu cet assassinat de l'ancien chef du renseignement burundais, le général Adolphe Nshimirimana. D'autres cas aussi d'assassinats de responsables du parti au pouvoir ont été signalés dans certaines localités du pays, ce qui justifie effectivement que le risque de guerre civile est déjà là si on n'est pas déjà probablement dans la guerre.
L'on demande maintenant la reprise de dialogue. Que devrait aborder ce dialogue?
L'origine même de cette crise, c'est la violation de la constitution burundaise, c'est la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi par ce projet de troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Tant que Nkurunziza n'aura pas abandonné ce projet, je crois que le Burundi va continuer à s'enfoncer dans une crise profonde. Donc, la première des choses de cette négociation, le premier point qui devrait être abordé, ça devrait être d'abord l'annulation de la mascarade électorale qu'on a connue avec les fameuses législatives et présidentielles, mais aussi que carrément Nkurunziza annonce qu'il abandonne ce projet et qu'après le 26 août 2015, on s'entende sur une direction alternative du Burundi et qui prépare les élections en bonne et due forme.
Donc, en dehors du retour au respect de l'accord d'Arusha, il n'y aura pas de paix au Burundi?
Pour nous, il est hors de question que Nkurunziza préside encore une fois au Burundi après le 26 août.
C'était Pacifique Ninina Zoué, leader de la société civile burundaise, joint par Eric Manirakiza.
Inauguration ce jeudi des travaux d'expansion du canal de Suez, un acquis historique selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il a pris part à une cérémonie dans la ville d'Ismaïlia en compagnie de plusieurs dignitaires étrangers. La construction de la seconde voie du canal contribuera à stimuler l'économie du pays en difficulté après des années de troubles. C'est du moins ce qu'avance le gouvernement égyptien. Mais certains analystes sont plus prudents dans leurs pronostics. Pour le professeur Habib Ayeb, ancien titulaire à l'Université américaine du Caire et actuel enseignant à Paris, le président Sissi devrait en tirer surtout des avantages politiques.
Ce qui est qui est inauguré aujourd'hui, qui est présenté comme un deuxième canal, au fait, c'est il y a un endroit au milieu du canal de Suez où les bateaux doivent laisser passer dans un sens pour pouvoir traverser dans l'autre sens. Donc il y a un moment d'attente qui sera réduit et du coup les bateaux vont pouvoir circuler dans les deux sens en même temps.
L'avantage principal pour l'Égypte ?
Pour l'Égypte, j'en sais rien. Pour les bateaux, ça fait 6 heures de temps d'attente en moins sur une vingtaine d'heures.
Le gouvernement égyptien s'attend à voir doubler d'ici 2023 le revenu du canal.
On ne voit pas trop comment, parce que faire gagner 6 heures au bateau, ça ne va pas doubler le nombre de bateaux qui vont emprunter le canal et ça ne va pas augmenter non plus le tonnage. Donc le volume global des marchandises qui seront transportées dans un sens ou dans un autre à travers le canal. Bon, 2023, c'est loin, on peut faire beaucoup de dessins, beaucoup de promesses, on verra d'ici là.
Et qu'est-ce qui explique donc ce choix, cette priorité de la part du gouvernement égyptien? Qu'est-ce qu'il peut en tirer, un avantage politique?
Politique en interne et en externe. Sepsi, dès le premier jour de sa, pas seulement de sa prise de fonction, mais de son entrée dans sur la scène politique égyptienne le 3 juillet 2013, a tout de suite mis la casquette de Nasser. Nasser qui a construit le barrage d'Aswan, qui a nationalisé le canal de Suez, donc il a voulu se présenter dans le costume de Nasser, l'homme qui bâtit, l'homme qui construit, l'homme qui fait rêver l'Égypte, les Égyptiens d'une nouvelle Égypte. Vous avez deux choses quand vous êtes un chef d'État avec des difficultés politiques énormes à l'intérieur de votre pays. Vous avez deux choses pour consolider l'unité nationale. Soit vous déclenchez une guerre avec un pays étranger, et là, en l'occurrence, l'Égypte ne pouvait pas se le permettre, ni économiquement, ni politiquement, ni géopolitiquement. Il n'y a pas moyen de déclencher une guerre contre un autre pays, soit vous faites des grands travaux qui surprennent, qui plaisent à beaucoup de gens, qui font rêver. Voilà, des projets qui font rêver. Et là, vous êtes sûr de gagner en applaudimètre. Et par rapport à l'extérieur, il y a ceux qui sont contre Sissi, ils sont très minoritaires. Et il y a les grandes puissances qui soutiennent aujourd'hui Sissi, alors qu'ils l'avaient critiqué ses premiers jours. Le message est double. Le message, c'est que nous, on travaille. Si vous voulez être avec nous, welcome. Si vous voulez nous empêcher d'avancer, les Égyptiens savent le faire tout seuls et l'Égypte est assez grande pour se passer du soutien de telle ou telle puissance.
Le professeur Habib Ayeb a enseigné pendant 16 ans en Égypte. Je l'ai joint à Paris, en France.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi, Washington Forum braque les projecteurs sur Yali 2, le second sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Pour le président Obama, la jeunesse est le moteur du progrès. Le programme Yali peut-il aider les jeunes leaders africains à faire une réelle différence sur le continent? Quelles doivent être leurs priorités? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Japon a commémoré aujourd'hui le 70e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Environ 140 000 personnes ont été tuées par la bombe d'Hiroshima, immédiatement ou ultérieurement sous l'effet de l'irradiation. Les États-Unis ont soutenu que ces attaques étaient nécessaires pour obtenir une fin rapide de la Seconde Guerre mondiale. Pour un éclairage, Idrissa Seydoudia a contacté le professeur Mamadou Diouf de l'Université Columbia à New York.
En fait, les Américains ont soutenu qu'il fallait avoir recours à la bombe atomique pour précipiter la fin de la guerre, car les Japonais continuaient à résister. Dans une certaine mesure, ceci est vrai. Il faut aussi dire que pour beaucoup d'observateurs, en fait, le Japon était déjà sur les genoux et allait capituler très rapidement. Donc certains se demandent si l'utilisation de l'arme atomique n'était pas aussi une bonne occasion pour les Américains dans un contexte qui annonçait la guerre froide et la course avec l'Union soviétique, en particulier à propos des armes atomiques. si ce n'était pas une bonne occasion de tester effectivement l'efficacité destructrice de cette arme. Donc, il semble aussi que les Américains ont saisi cette occasion pour tester l'arme atomique dans un contexte où le Japon n'était pas très loin de capituler.
C'était la première fois et jusqu'à présent la dernière fois que cette arme a été utilisée. Quelle est la leçon qu'on a pu tirer de cette expérience, si je puis dire?
Je pense que l'utilisation de l'arme atomique dans la guerre avec le Japon et son extraordinaire puissance destructrice a été expérimentée. Et je pense que ça a été la très très grande leçon. Ce n'était plus quelque chose de tout à fait théorique tel que les physiciens en fait ont été capables de non seulement produire cette arme, mais aussi en fait l'expérience japonaise a montré que ça allait très très loin. Et les hommes, je pense, ont appris à partir de cette expérience qu'il fallait tout faire pour éviter en fait l'utilisation de cette arme. L'un des paradoxes justement de la situation, c'est que ça a été à la fois d'espèce d'extraordinaire désir de tester cette arme de destruction massive, mais en même temps, en fait, ça a été aussi l'apprentissage d'une destruction tellement massive qu'il a été décidé. Et je pense que jusqu'à présent, y compris avec l'accord signé avec l'Iran, on sait qu'il faut tout faire pour éviter de l'utiliser.
C'était le professeur Mamadou Diouf de l'Université Columbia, joint à New York.
Fin du sommet Yali hier à Washington. Les 500 jeunes leaders africains invités par les États-Unis vont désormais rentrer chez eux et partager leurs expériences au pays. Que retiennent les participants de cette expérience unique? Nicolas Pinault a posé la question aux participants du Yali 2014.
La visite de la capitale Washington, la rencontre avec Barack Obama ou encore les cours dans les universités américaines, les souvenirs sont nombreux pour ces jeunes leaders africains de l'édition 2014. Un an après, la motivation est la même, changer l'Afrique et être à la pointe d'un continent qui bouge. Vital Sounouvou est entrepreneur béninois. Il est le fondateur du site Exportunity qu'il décrit comme le eBay du commerce de gros.
Vraiment, ce que Yali nous a apporté, c'est vraiment la crédibilité nécessaire pour vraiment aller là où nous voulions aller. Nous avons une belle expérience avec le Yali pour apprendre, comprendre comment sur le marché international ça marche et quels étaient les ajustements que nous devions faire. Et l'année qui s'est écoulée nous a permis de faire ces ajustements-là pour lancer de façon plus solide.
À Libreville, Willy Conrad Aseko Alogo lui veut retenir les échanges d'idées avec les autres jeunes du continent. Une leçon d'humilité pour le secrétaire général de l'Association des jeunes entrepreneurs gabonais.
Je tiens à préciser que le programme Yali, c'est un programme qui rend déjà très très humble. Lorsqu'on est jeune et qu'on est très actif au niveau de son pays, on pense parfois qu'on vit en marge de ce qui se passe dans d'autres pays africains. On pense que les jeunes là-bas, ils sont au sol, dans d'autres pays, ils sont au soleil. On pense que dans d'autres pays, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est jeune entrepreneur gabonais, on pense que peut-être au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas les problèmes liés aux attributions des marchés, à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial, etc., etc., etc. Et lorsqu'on rencontre 499 autres jeunes qui en fait vivent les mêmes problèmes, on en revient à minimiser son propre parcours et ça donne envie de faire encore plus qu'avant.
Cet ancien basketteur gabonais loue aussi le dialogue franc, ouvert et régulier avec les autorités américaines au Gabon. Washington lui a ainsi permis de participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le mois dernier. Alors certains critiquent le programme Yali, estimant que Washington essaie d'influencer les futurs décideurs africains, voire d'imposer sa vision libérale de l'économie. Faux, répond le Sénégalais Sobel Aziz Ngom, directeur de Social Change Factory.
Beaucoup de gens vont dire ce qu'ils veulent un petit peu sur le programme et sur l'idée derrière le programme, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. L'idée pour nous, ce n'était pas de nous formater selon la culture ou la vision américaine. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai retenu de ce programme, moi, personnellement. Parce que voilà, bon, pour moi, les États-Unis, voilà, comme pour beaucoup de gens, il y a le meilleur comme le pire. Donc, ce n'est pas forcément une inspiration. L'idée, ce n'est pas de ressembler aux États-Unis. C'est de prendre ce qui existe de bien, de l'adapter si c'est possible, ou sinon tout simplement de créer des choses qui sont nouvelles et qui nous appartiennent, qui correspondent à nous-mêmes et à notre état d'esprit.
Le nombre de jeunes participants au Yali sera doublé l'année prochaine et passera de 500 à 1 millier en 2016.
C'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. Dan Crifton était à la console. Présentation chez Rubin. Gabi Dorsil.
Et Tatiana Mosso. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com. Les infos dans un instant.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.